Bonjour, c'est Mathias Luguin. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, avec aujourd'hui cette invitation un peu singulière, puisque je vous propose de passer...
Par-dessus la troisième corde !
Alors vous l'aurez peut-être compris, on parle de sport de combat, ou plutôt de sport spectacle. Le catch, un show à l'américaine qui a connu son heure de gloire en France et qui reste un grand succès, porté par une communauté d'amateurs fidèles. Une ferveur qui s'exprime notamment lorsque la WWE, la plus grande fédération du monde, se produit en France. C'est le cas ce 29 avril à l'Accor Arena de Bercy, et depuis 23 ans, ces shows, on les regarde, on les vit aussi derrière son écran, en écoutant leurs commentaires. Ils sont les voix du catch en France, Christophe Ajus, Philippe Chiron. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Mathias.
Bonjour Mathias.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. On vous retrouve tous les mercredis, tous les samedis en prime time sur la chaîne AB1. Peut-être que pour commencer, on pourrait revenir sur ce que c'est que le catch. Une discipline finalement méconnue qui ne se limite pas à des affrontements entre gros bonhommes en slip sur le ring, Christophe.
Ben, vous l'avez parfaitement dit en introduction, le catch est un sport spectacle. C'est un spectacle car évidemment les combats sont scénarisés, c'est un sport parce que les athlètes qui participent à ces combats sont des athlètes, des sportifs, ils s'entraînent dur pour proposer le meilleur spectacle au public.
Oui, le catch, il faut comprendre que c'est un divertissement sportif. Je pense que c'est parfaitement résumé, c'est comme ça que les Américains le nomment. Et puis on a une vraie culture du catch en France. Il faut savoir que même les bases du catch sont un peu françaises. Voilà, cocorico.
On va y revenir justement. Mais alors pourquoi le catch n'est pas toujours pris au sérieux ? Pourquoi on peut dire qu'il est même parfois tourné en dérision ? Qu'est-ce qui fait ça ?
C'est la nature même, entre guillemets, j'allais dire, du produit finalement, parce que le catch lui-même ne se prend pas particulièrement au sérieux. Mais à côté de ça, le catch, c'est effectivement du divertissement. On est là pour faire rire les gens, pour les entraîner, leur faire vivre de nombreuses émotions. Tout ça en direct devant un public avec... peu de chance de se louper parce que ça se voit directement.
Oui, on peut résumer ça au grand guignol, c'est grand guignolesque, donc ça veut dire qu'on force le trait. Et à partir du moment où on force le trait, ceux qui n'ont pas compris disent « Ah oui, mais les mecs qui se battent en slip, personne ne se bat en slip. » Si, en fait.
Il y en a quelques-uns quand même.
Il y en a quelques-uns. Mais pour les sports nobles de combat, on est plutôt en short, vous voyez, on est plutôt en tenue de combat. Les catcheurs, en premier, ne se prennent pas au sérieux. Et pourtant, ils ont tout. Ils ont le package, comme on dit, pour être techniquement très bon, athlétiquement très bon. Et c'est pas parce qu'ils font les choses facilement que c'est facile.
Vous disiez scripté, scénarisé, il y a quelques instants. Que les auditeurs comprennent bien, ça l'est jusqu'à quel point ?
Quasiment, totalement. On est face à des professionnels qui sont capables d'improviser dans le ring et pour suivre justement le public. Selon les réactions du public, ils peuvent changer, pas forcément l'issue d'un match, parce que là on est sur un scénario qui est écrit à l'avance par des auteurs. La WWE marche comme une série télévisée, ils ont un groupe d'auteurs qui écrit des histoires avec effectivement, dans un premier temps, le méchant va gagner pour... simplifier la chose, puis ensuite le gentil va prendre sa revanche, ensuite il va se faire attaquer dans les vestiaires, donc on va faire un dernier match pour voir qui est vraiment le plus fort. En général, c'est toujours le gentil qui gagne, mais c'est scénarisé du début à la fin, et c'est une machine assez dingue. On a eu la chance avec Philippe d'aller plusieurs fois aux États-Unis et de participer aux répétitions d'avant-spectacle, et c'est du matin, 9h du matin, jusqu'au début du show, 20h, toute la journée, ils répètent les entrées, les fins de match, tout ça aussi, parce que c'est un spectacle diffusé à la télévision, donc il faut que le réalisateur soit au courant de ce qu'il doit filmer, à quel moment, et c'est très intéressant aussi de voir ses coulisses.
Et donc, comme c'est un spectacle vivant, il peut arriver qu'il y ait des erreurs, par exemple ?
Oui, mais comme je le disais tout à l'heure, on est face à des grands professionnels, donc ils savent les mettre en scène, en jouer également, donc ils font comme s'ils avaient fait exprès de se tromper, et puis le public forcément ne sait pas vraiment ce qui doit se passer, donc il peut pas forcément toujours savoir qu'il y aura une erreur.
Vous avez employé un mot très important, un spectacle vivant. Est-ce que vous poseriez la question à un chorégraphe dans un spectacle vivant si c'est scénarisé et répété ? Il va dire oui, forcément. Donc c'est normal que ce soit scénarisé. Après, comme dans une pièce de théâtre, et c'est là où ça devient truculent pour ceux qui adorent le théâtre, il y a parfois, en effet, ce qu'on appelle des trous de mémoire, des parties improvisées, et c'est là où, quand on connaît le truc, on apprécie encore plus quand on est un vrai fan. Donc c'est un spectacle vivant, athlétique, sportif, scénarisé, comme l'est une pièce de théâtre, comme l'est un film, comme l'est une série. D'ailleurs, certains sont devenus les meilleurs à Hollywood aujourd'hui. Et parce qu'ils sont très bons, ils peuvent improviser. Et c'est ces parties-là qu'on recherche quand on est fan, en fait.
Et justement, est-ce que c'est assumé, ce côté scénarisé? Est-ce que les fans le savent en général, que tout est prévu à l'avance?
Mais c'est ça qui est génial. On va dire qu'on se place comme tous les fans. On adore être surpris. On adore être bluffé par, en effet, une histoire qui devrait se terminer comme ça, mais qui ne se finit pas comme ça.
Donc concrètement, c'est un feuilleton en fait qui se termine sur un ring.
Totalement, mais c'est exactement ça, effectivement. Pour décrire souvent ça simplement, quand je côtoie des gens qui ne connaissent pas ou que je me retrouve dans un VTC et qu'on commence à discuter, ah vous faites quel métier? Bah je suis commentateur de catch. Ah bon, mais le catch? Alors la première question évidemment toujours, c'est est-ce que c'est truqué? Non, c'est pas truqué, c'est scénarisé. Les coups sont réellement donnés, mais ils ne sont pas donnés pour faire mal. On apprend à les recevoir, à les donner de la meilleure manière. Après, malheureusement, ils se font quand même mal. Mais comme le disait Philippe, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est justement scénarisé. Les gens regardent ça comme un véritable feuilleton. On prenait cet exemple aussi des super-héros qui sont très à la mode. Ben, les catcheurs, c'est un peu comme les super-héros. À la place de leur pouvoir, ils ont des super prises. Chacun a sa prise de finition, chacun a sa prise spéciale que les fans attendent. Et les vrais connaisseurs voient que la prise va arriver. Et puis au dernier moment, elle se fait contrer. Finalement, elle arrive quand même. Donc c'est extrêmement prenant et on veut aller jusqu'au bout, connaître la fin de l'histoire.
Un vrai choix à l'américaine ? En somme, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une vraie culture du catch en France. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Philippe. Certains de nos auditeurs se rappelleront de L'Ange Blanc, de Chéri Bibi. Il y a aussi eu le Bourreau de Béthune, entre autres, évidemment. On en est où aujourd'hui du catch français ?
Bah, le catch français se porte plutôt bien, mais à sa manière, en quelque sorte, parce que, comme pour beaucoup de choses, la France est un petit peu en retard pour le divertissement. Quand on va voir un match de basket en France, on va voir un match de basket. Quand on va voir un match de basket aux États-Unis, un match de NBA, il y a tout derrière. Il y a les cheerleaders, il y a le spectacle à la mi-temps, il y a énormément de choses. Et pour le catch français, c'est un petit peu pareil. Les moyens sont beaucoup plus bas, il n'y a pas de pyrotechnie, il y a moins de lumière et autres. Mais on sent vraiment que le catch français est actuellement en train de revenir. Il y a beaucoup de shows qui s'organisent régulièrement et beaucoup de catcheurs très talentueux qui sont en train de faire leur trou en Europe. C'est un petit peu comme dans beaucoup de sports, on commence... justement comme dans le basket, on commence un petit peu en France, on grandit en Europe, et puis effectivement le but ultime est d'aller aux États-Unis.
La phrase « vue à la télé, entendue à la radio » est très importante. C'est très important parce que grâce justement à ces phénomènes de mode qu'on a pu avoir à la télé sur les programmes de la WWE, ça a permis justement au catch français de se renouveler et de donner des envies. Et tous ceux qu'on voit aujourd'hui dans le ring ont grandi grâce à des émissions qui s'appelaient Catch Attack, Puissance Catch, et ils ont grandi en fait avec ces programmes-là. Et donc, ça a relancé, en fait, le catch en France. Et puis, comme souvent, comme c'est la mode un peu partout, bien, certains disent, ouais, c'est trop américain. Donc, on aime bien aussi ce côté roots, ce côté typique, un petit peu saucisson, pain, cornichon. Quand on n'a pas les moyens, on devient créatif. On devient, on va dire, authentique.
Ouais.
Et l'authenticité dans le catch français, c'est à l'origine les foires, c'est les monstres qu'on venait voir, qu'il fallait affronter. Avec si tu gagnes contre mon monstre, tu deviens champion et je te file des sous. Et les gens aujourd'hui adorent avoir cette ambiance dans les salles des fêtes, dans les salles de sport, parce qu'il y a des galas de catch quasiment tous les week-ends en France. Parce que si vous enlevez tout ce qui est autour du catch aux États-Unis, c'est-à-dire les costumes, la musique, la pyrotechnie, les lumières, enfin. Le show à l'américaine, comme il a été dit tout à l'heure, quand vous regardez ce qui se passe, on appelle ça in-ring, c'est-à-dire la performance dans le ring, en Europe, il y a quand même des gars et des nanas qui sont super forts. Et d'ailleurs, c'est ceux-là qu'on va recruter pour aller faire justement le catch américain.
Ce vivier, vous le disiez, il a grandi souvent en regardant des émissions auxquelles vous avez collaboré. Vous faites complètement partie du show, en fait, on peut le dire. C'est la définition même de jouer le jeu, je dirais. Et il faut tout dire aux auditeurs, d'ailleurs, parce qu'on a poussé l'expérience un petit peu plus loin. Il y a quelques semaines, je suis venu vous rendre visite en cabine pour m'essayer aux commentaires. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous ne m'avez pas manqué, écoutez.
Et aux commentaires, le cyborg d'RTL, Mathias Luguin.
Alors Mathias, chaud pour cette soirée ?
Absolument chaud. Bonsoir Philippe, bonsoir Christophe. Merci beaucoup de m'accueillir dans votre aire de jeu, c'est comme ça que vous dites.
C'est votre vraie voix, Mathias ?
J'essaye, je ne fais pas mieux, j'ai pas mieux.
Il va falloir faire un effort. attention, deux. Vous tombez !
Il n'y aura pas trois, simplement deux.
Vous me disiez tout à l'heure, Mathias, que vous rêviez d'être Austin Theory.
On dévoile tout, c'est ça.
Ma vie est nulle, ma journée était pourrie, je veux être Austin Theory. C'est ce que vous disiez, je cite.
Il nous avait même montré son slip de combat.
Alors on fait moins le malin, Mathias, on fait moins le malin, la première radio de France. La suite
au prochain numéro.
Vous n'avez pas été super sympa, hein.
Alors, les auditeurs, ils me regardent moi particulièrement. Non, mon métier n'est pas d'être super sympa. Vous pouvez témoigner, Mathias, dans la vie, je le suis plutôt. Mais c'est effectivement, vrai. Au micro, on a ses rôles avec Philippe. Philippe est fidèle à lui-même, comme dans la vie, il est très gentil. Et moi, effectivement, j'essaye d'être méchant. En plus, avec vous, c'était facile. Il faut dire que si vous êtes un grand journaliste, vous n'êtes pas encore un grand commentateur.
Mathias, on peut tous dire, là, on est entre nous.
À peu près.
Vous l'avez fait exprès ou pas?
Pas du tout, c'est ça qui est terrible.
À flûte.
Et ce qu'on comprend, tous les deux, c'est que vous avez une vraie dynamique. Vous êtes un petit couple, en fait.
Ah bah, je pense que ça s'est entendu, on est plus qu'un petit couple, on est un vieux couple maintenant, oui, 23 ans de mariage télévisuel. Parfois il est un peu comme mon père, parfois il est un petit peu comme mon compagnon, mais oui, on est totalement un vieux couple, surtout effectivement à l'antenne, et puis parfois ça se traduit dans la vie, ce qui est assez amusant, parce que quand on finit par rencontrer des gens dans la vie et qu'on est tous les deux, bah, notre duo ressort, il fait des longues phrases, moi je le coupe pour dire que c'est ennuyeux. Et effectivement, ça fait partie du jeu aussi. On s'est un petit peu calé sur ce qui se faisait aux États-Unis. Et nous, effectivement, on a pris ce parti d'avoir un gentil, un méchant. Moi, j'essaye d'être de mauvaise foi, d'inciter les gens à tricher.
Non, le mot essayer n'est pas indiqué.
D'accord, j'y arrive parfaitement. Voilà. C'est naturel.
Alors, je sais que vous allez me dire que votre boulot, c'est pas de voler la vedette aux performeurs qui sont dans le ring. Mais forcément, vous êtes extrêmement lié au programme. Et donc, vous vous rendez compte dans la rue, peut-être quand vous croisez des gens, que vous êtes devenu aussi, finalement, des vedettes de
Alors,
cette émission.
Alors, oui et non. Disons que le mot « ne pas voler la vedette » est très important. Nos commentaires sont là pour sublimer, en fait, les superstars. Quand les gens se disent qu'on va avoir un programme de catch, ils s'attendent à ce que, pendant 45 minutes, c'est 45 minutes de combat. Non, c'est juste pas possible. Il faut bien installer les histoires, et c'est nous, après, à les développer, D'accord. de les traduire, de les expliquer, de les renforcer. Donc, il est clair que parfois, quand les shows sont un peu mous, et n'ayons pas peur de le dire, quand parfois les matchs sont un petit peu moins, on va dire, enjoués que d'autres, bah, nous, on compense. En fait, on est là aussi pour compenser. Mmh. Et c'est là où il faut faire attention, justement, comme vous le disiez, Mathias, à ne pas voler la vedette. Ensuite, sur le reste de la question, oui, les gens nous reconnaissent. Oui, les gens nous aiment bien parce qu'on est, on est palpable, on existe. Et on parle la même langue qu'eux. Mmh. Donc ça aussi, c'est important parce qu'on oublie que c'est un programme familial. Et même si certains ont grandi avec nous et grâce aux traductions de Christophe, excellent, ils ont bien appris parfois l'anglais, la culture américaine, l'histoire américaine, la géographie, tout ça. Mmh. Et donc, c'est vrai que ça nous fait plaisir quand on voit des gamins de 25 ans maintenant qui ont des gosses et qui nous parlent anglais en disant bah, « j'ai appris grâce à vous ».
Donc, rapport privilégié avec vos fans quand vous les rencontrez, ce qui arrive quand même de temps en temps. Qui sont-ils, ces fans, tiens, d'ailleurs? Est-ce qu'on peut les décrire? Est-ce qu'on peut savoir qui ils sont?
Vous en êtes un parfait exemple, Mathieu. Vous avez regardé du catch
c'est
avant.
C'est vrai, j'ai grandi avec, oui.
Mais ça touche vraiment toutes les classes sociales. On a effectivement des gens qui travaillent à l'usine, on a des avocats d'affaires, on a des patrons d'entreprise. C'est un programme familial. Donc on peut se retrouver en famille, regarder ça, et puis effectivement être quelqu'un de très cultivé ou quelqu'un qui s'intéresse peut-être plus au sport ou à d'autres choses et aimer le catch parce que ça touche toutes les classes sociales. Et c'est assez facile à comprendre, il faut être honnête. Donc, on peut vraiment se prendre au jeu, se laisser un petit peu aller, comme certains soap opéra. Il y a des gens qui regardent Amour, Gloire et Beauté ou Quand j'étais plus jeune, Santa Barbara. C'est pas pour autant que c'est une certaine catégorie de personnes ou une autre.
On est sur RTL, et je sais qu'ici, c'est pas un gros mot.
Oui, populaire.
C'est populaire. Et je sais que sur certaines autres radios,
ça y est,
ou autres médias,
des noms.
On est dans l'élitiste, dans le parisianisme un petit peu, on est entre nous, pas à RTL et pas chez nous en fait. C'est un programme catch, un programme populaire et c'est pas un gros mot. Et en effet, pour résumer, c'est pour tout le monde. Et pas que ceux qui sont à la capitale, c'est pour toute la France et toute la francophonie.
Les femmes regardent aussi le catch parce qu'on a l'impression que c'est un peu, entre guillemets, un truc comme on pouvait le dire avant, un truc de mec finalement. Pas du tout.
Ah non, d'autant que on le voit, ben on parlait tout à l'heure du catch français, on le voit de plus en plus dans les salles en France, il y a de plus en plus de femmes qui se déplacent. On voyait beaucoup de femmes qui venaient avec leur mari ou avec leurs enfants pour les accompagner, mais effectivement, ben, elles se prenaient aussi au jeu, et puis maintenant, on le voit avec les réseaux sociaux, parce que on est en direct tous les mercredis soirs sur AB1 et AB Explore, des chaînes du groupe Media One, et on réagit en direct avec les téléspectateurs sur Internet, et on voit effectivement de plus en plus de femmes nous écrire sur les hashtags, réagir au show. Le catch féminin s'est énormément développé aussi, et donc la WWE propose des personnages qui permettent aux femmes de se reconnaître aussi. C'est ouais. des exemples pour les petites filles, de voir des petites filles qui sont sorties de milieux défavorisés ou qui ont peut-être connu le harcèlement scolaire et qui aujourd'hui sont des superstars mondiales reconnues effectivement dans le monde entier. Mmh. Donc autant quand moi j'étais plus jeune, c'est vrai qu'on c'était surtout masculin parce qu'il y avait principalement que des catcheurs. Et donc, pour les petits garçons, c'était plus facile de se reconnaître. Aujourd'hui, il y a des catcheuses tout aussi starifiées que les hommes. Et donc, pour les petites filles, c'est pareil. Il y a des exemples. Et avec les produits dérivés, les figurines, les poupées, les jeux vidéo, ça leur permet d'entrer aussi dans ce monde.
Évolution notable, c'est que pendant des années, on appelait les femmes de la WWE les divas.
Tout à fait.
Aujourd'hui, ce sont des catcheuses.
Exactement. Mmh.
Alors, on l'a compris, tous les profils pour un ensemble bigarré. Et cet ensemble, on va le retrouver à Bercy, le Saturday Live Main Event, show unique de la WWE en France pour l'année. Et à chaque fois, c'est un succès annoncé. On ne se rend pas compte de l'attente qu'il y a.
Le décompte est commencé. Ça va chauffer. La foule sera en délire. Et les superstars de la WWF vont vous époustoufler. Si ces dernières secondes vous ont alléché, imaginez une vie pleine d'action comme à la WWF. C'est ce que vous vivrez. À Paris, Bercy, vous devez le voir pour le croire.
Bon alors là, vous venez d'entendre un vieux spot.
1993.
Hein. Absolument.
J'ai traîné mon papa de Souffelweyersheim en Alsace jusqu'à Paris-Bercy. Il a fait l'aller-retour en voiture dans la journée. On n'a même pas pris d'hôtel parce que on n'était pas une famille très très riche. Donc il a accepté de me conduire en voiture jusqu'à Bercy et de regarder le show et de refaire la route derrière pour me ramener à la maison le lendemain.
30 ans après, vous serez à Bercy encore ce
oui.
week-end, ce 29 avril. La WWE en France, il faut le rappeler, c'est plus de 50 spectacles, près de 400 000 spectateurs en tout. Comment on peut expliquer que notre pays reste aujourd'hui encore un passage obligé pour la fédération ?
Il y a plusieurs choses. D'abord, il y a la culture. Il y a une culture de catch qui existe vraiment en France. Et on les connaît bien, nos amis américains. Vous savez, chaque fois qu'ils sont sur une scène, on a le droit. Vous êtes le meilleur public, les applaudissements faciles, ce genre de choses. Mais vraiment, en fait, c'est quand on discute avec eux, ils disent, c'est incroyable. Sur les derniers spectacles, avant, ils venaient un peu plus de fois. Ils venaient pas qu'à Paris.
Oui.
On les a vus à Nice, à Lyon, à Lille, à Nantes,
Strasbourg.
Enfin, ils ont
Amnéville. Mon papa m'avait amené à Amnéville.
Ah, vous voyez.
Sauf que Paris, ça reste quand même une ville mythique, qu'on veuille ou non. Quand vous discutez avec les superstars, elles profitent aussi de ces tournées. Ça fait partie aussi du rêve d'un catcheur que de faire le tour du monde et de connaître évidemment toutes les villes les plus intéressantes, les plus mythiques. Paris en fait partie. Pour les Américains et les Américaines. Et puis surtout, le public est au rendez-vous. Et on a une qualité du public, et je dis pas ça, c'est pas démagogue du tout. Ils sont très réactifs, ils sont très connaisseurs, ils connaissent tout. Et ça, les superstars s'en rendent compte. Hein. Souvent, ils disent, c'est le meilleur public qu'on a eu sur la tournée d'Europe. Mmh. Et ça a été le cas, en tout cas, l'année dernière.
L'année dernière.
Et ce sera le cas encore cette année.
On avait des gens qui étaient des officiels de la WWE, qui ont fait des tournées... des dizaines de tournées à travers le monde qui étaient limite en larmes l'année dernière à la fin du show lorsque Roman Reigns, qui est le grand champion, faisait son entrée avec la réaction du public. Mmh. On était juste à côté d'eux et ils étaient émus oui. par la réaction du public français qui est effectivement avide de ce spectacle. Et c'est vrai que comme ils ne viennent quasiment plus qu'une fois par an, il y a une vraie envie, il y a un vrai plaisir, un bonheur. Et c'est justement aussi ça qui fait la particularité de la WWE, c'est que évidemment il y a le spectacle dans le ring,
ouais.
mais il y a aussi le spectacle dans la salle. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux gens qui ne connaissent pas forcément. Quand on va voir un match de foot, bien sûr qu'il y a une ambiance, mais elle est souvent malheureusement entachée par des insultes, des violences. Alors que dans le catch, c'est vraiment très bon enfant. Les gens savent que c'est scénarisé, ils sont fans d'un catcheur comme on peut être fan d'un super-héros ou d'un personnage de fiction. Mais ils vont pas insulter les fans de l'autre catcheur. Ils vont insulter le catcheur parce que ça fait partie de la culture, entre guillemets. C'est comme ça aussi que le catch a explosé en France après-guerre. C'était un exutoire pour le public. Donc, ils vont insulter les catcheurs, ils vont faire des chants. Mais tout ça de manière très bon enfant. Et vraiment, c'est une ambiance dingue. C'est vraiment incroyable à vivre.
J'aimerais profiter de ce podcast pour remercier vraiment les fans. Qui font le déplacement, qui nous regardent toutes les semaines depuis des années. qui nous supportent, y compris qui supportent Christophe.
Merci.
Et surtout, les remercier pour ce qu'ils font lorsque les superstars viennent, parce qu'ils font partie du spectacle, Christophe l'a dit. Et si le spectacle est réussi, si la WWE revient toujours avec beaucoup de plaisir en France et à Paris ou ailleurs, on l'espère bientôt, c'est grâce à eux.
Alors justement, c'est peut-être aussi ça que vous essayez de mentionner. On a cette rumeur qui tourne un petit peu. Est-ce que la WWE au Stade de France, c'est envisageable ?
Ah, c'est totalement envisageable. Après, il y a un petit événement qui s'appelle les Jeux Olympiques qui fait que le Stade de France va être un petit peu pris pendant quelques temps. Mais c'est carrément envisageable. La WWE a totalement entendu l'appel. Pour ceux qui ne le sauraient pas, sur les réseaux sociaux, les fans français ont lancé une sorte de campagne pour essayer d'attirer l'attention de la WWE pour qu'elle vienne au Stade de France, puisqu'elle commence à vouloir faire des grands spectacles dans des grands stades européens et mondiaux. Donc la WWE a parfaitement entendu l'appel et elle est parfaitement consciente que ça serait une réussite totale.
Est-ce qu'on peut raconter, tiens, en quelques mots pour terminer, comment ça se passe un show de catch qui n'est pas télévisé, ce qu'on appelle un house show dans le jargon.
Désormais, on appelle ça un live event.
Un live event.
Ah oui, les mots changent. Bon, c'est la même chose, effectivement. Ça se passe exactement de la même manière qu'un show télévisé, si ce n'est que, évidemment, il n'y a pas de caméra et puis que c'est principalement des combats. Dans les shows télévisés, on fait avancer les histoires, donc les catcheurs parlent, ils font des promos, ils expliquent pourquoi ils en veulent à un tel ou un tel, ou pourquoi ils vont s'en prendre à un tel ou à un tel. Dans les shows non télévisés, on va droit au but, le combat. Mais ce qui est beaucoup plus amusant pour le public présent, c'est que comme il n'y a pas de caméra, les catcheurs jouent pour le public principalement. Oui. Alors qu'évidemment, quand le show est télévisé dans le monde entier, ils jouent pour les caméras. Donc là, il y a beaucoup plus d'interaction avec le public, ils vont beaucoup plus chercher le public. Et les catcheurs qui vraiment aiment ça vont faire durer parfois leur match bien plus longtemps que ça devrait être prévu parce que ils se sentent bien, ils sont bien là, donc ils vont aller chercher le public. Certains vont même aller se battre dans le public. Voilà, l'interaction est plus grande.
Le sel, c'est de savoir comment ça va se passer. Voilà, c'est-à-dire que même si c'est la même tournée, alors parfois c'est pas forcément les mêmes matchs, au même titre qu'un fan d'un artiste qui va faire toute la tournée d'une artiste ou d'un groupe, va apprécier en effet en disant le show à Paris était différent de celui de Berlin ou de Londres. En plus, ils n'ont pas joué les mêmes titres et tout ça. Et bien là, c'est pareil. Quand on est fan, on va chercher justement la petite différence et l'ambiance.
Une expérience à vivre, un grand show à l'américaine. Et comme on le disait tout à l'heure, il faut le voir pour y croire.
Bonsoir à tous et bienvenue à San José, California, pour WWE.
Comme on dit chez nous, oulala!
Bienvenue à Manchester, New Hampshire, pour WWE SmackDown!
C'est le show le plus chaud de tous les shows!
Au bout de la corde à la
1 et 2! Et il n'y aura pas 3, mais simplement 2!
Merci Christophe!
C'est la cloche!
Voilà, ça c'est un petit échantillon de ce qui vous attend à la télé tous les mercredis, tous les samedis sur AB1. Vous faites à chaque fois une petite apparition, vous, dans les shows, dans les live events. Cette année encore, il n'y a pas de surprise, vous y serez.
Oui, normalement, on devrait y être, évidemment, faire un petit coucou, remercier le public, parce que Philippe l'a dit tout à l'heure, on a la chance d'avoir un public exceptionnel en France. Et on le dit aussi souvent, le plus souvent possible, on a la chance d'avoir un public bienveillant. Ça fait 23 ans qu'on est là. Et bien qu'on soit quand même un petit peu, excusez-moi l'expression, de couillons, c'est mon côté marseillais de Strasbourg, les gens nous aiment bien quand même, et ça c'est extrêmement touchant.
Au-delà du fait d'être là sur le ring avec les superstars, c'est un moment de partage et d'échange. Et comme Mathias, vous posiez la question tout à l'heure, c'est aussi un moyen de rencontrer les gens que l'on accompagne depuis des années. Et ça fait bizarre parce que moi je suis un peu plus âgé que Christophe, d'ailleurs, il ne manque pas de le rappeler régulièrement. On les a vus grandir, en fait. C'est-à-dire que moi, souvent, je me retrouve dans une boutique, j'ai un gars en face de moi, il dit « Vous êtes... » Alors je dis « Oui, je suis. » Et il dit « Ah, je peux prendre une photo, alors j'ai grandi. » Et en fait, le gars, il a un boulot, il a une famille, il a des gosses, et il me dit « je vous regardais quand j'étais petit. »
C'est dur.
Non, mais ça fait plaisir aussi, parce que...
Ça fait mal, surtout.
Ça prouve que... Et il dit « Aujourd'hui, je regarde avec mes enfants. » Et on est dans cette histoire-là, pour résumer. Voilà, programme populaire, familial, intergénérationnel.
Le catch, un phénomène qui dure donc dans notre pays, qui cartonne hein, toujours. Ce sport-spectacle à prendre tel qu'il est, tel que vous nous l'avez expliqué, un pur divertissement. Je veux vous remercier, Christophe Ajus, Philippe Chéreau, commentateur de la WWE en France. Merci de nous avoir transmis votre passion dans Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Podcast que vous pouvez commenter, noter et partager sur vos plateformes d'écoute préférées, mais aussi sur l'application RTL et le site rtl.fr.